לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro. Yael Bornstein en technique et avec moi, Michael Olschwang. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui 15 avril 2024, ça fait 192 jours qu'Israël est en guerre. Je vous rappelle que ce flash qui dure 5 minutes n'est disponible qu'à la radio sur le 101.3 FM. On vous invite à nous retrouver à partir de 21h20 sur le 101.3 FM ainsi que sur la page Facebook de Cannes en français pour votre rendez-vous Facebook Live et le journal complet avec ce soir notre invité Meir Masri. L'opération terrestre Rafiah, dont personne ne connaissait la date, a été retardée vraisemblablement en fonction de l'actualité brûlante de ces dernières 24 heures. On en parlera tout à l'heure. 4 soldats de Tzal ont été blessés cette nuit par une explosion lors d'une activité opérationnelle en territoire libanais. L'un des soldats est blessé grave. Il a subi une intervention chirurgicale vitale à l'hôpital de Naharia. 2 autres ont été légèrement et modérément blessés. Leurs familles en ont été informées ce matin. Le nom de l'opération visant à intercepter et à contrecarrer l'attaque iranienne au cours de laquelle des centaines de missiles et de drones ont été lancés sur Israël a été déclaré aujourd'hui. Il s'agit de bouclier de fer. Les pays européens ont annoncé les uns après les autres qu'ils se tiennent aux côtés d'Israël et ont convoqué leurs ambassadeurs iraniens pour des entretiens. En même temps, ils exigent qu'Israël s'abstienne, de toute escalade après l'attaque iranienne. Mais un haut responsable américain a précisé ce soir que le président américain Joe Biden n'empêcherait pas Netanyahou de riposter. Nous sommes attachés à la sécurité d'Israël et aussi à la protection des intérêts américains et à ses partenaires dans la région, y compris l'Irak. C'est ce qu'il a déclaré lors de sa rencontre avec le premier ministre irakien. La chaîne de télévision Qatari Al Jazeera a cité un responsable américain qui a déclaré qu'Israël pourrait attaquer les cibles situées au cœur de l'Iran. Selon lui, la réponse éventuelle d'Israël n'aurait pas pour but d'aggraver la situation, mais de faire comprendre à l'Iran ses capacités. La Grande-Bretagne et la France sont tentées de convaincre Israël de ne pas riposter aux attaques de missiles et de drones iraniens. Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron, dont le pays a participé aux interceptions, a déclaré à la BBC qu'il était justifié de penser que les Israéliens devraient réagir parce qu'ils ont été attaqués. Mais la Grande-Bretagne les exhorte en tant que société à penser avec la tête comme avec le cœur et à être intelligent dans ce moment si dur. Cameron qui est attendu bientôt en Israël. Quant au président français Emmanuel Macron, il a déclaré que Paris ferait tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre Israël de ne pas répondre à l'attaque iranienne. Pour Macron, l'Iran a réagi au bombardement de Damas de manière disproportionnée et le droit d'Israël doit être défendu pour assurer sa protection. La France qui renforce par ailleurs la sécurité autour des écoles juives et des synagogues. EasyJet annule ses vols depuis et vers Israël, vers diverses destinations, notamment en Europe, au Royaume-Uni, en Suisse et en Italie. Et ce, au moins jusqu'au mois de juin. EasyJet a confirmé cette information en déclarant qu'il s'agissait d'une annulation des vols jusqu'au 21 du mois seulement. Le commandant du front intérieur, le général Rafi Milo, a commenté les critiques concernant la levée des restrictions hier vers minuit en affirmant qu'il était conscient de la difficulté des conseils régionaux et locaux à s'organiser pendant la nuit et que le retour a été progressif. Mais pour lui, ce n'est que vers minuit que l'accord et la décision de lever les sanctions ont été pris dans le souci de faciliter un assouplissement de la politique de défense tout en maintenant la sécurité. Nous sommes dans une longue guerre, a dit Rafi Milo, et dans les prochains jours, des changements peuvent encore être apportés à la lumière de l'évaluation de la situation. Deux hauts responsables politiques ont révélé hier la réponse reçue par les médiateurs du Hamas pour l'accord de libération des otages. Alors qu'en Israël, ils se préparent à l'attaque de missiles et de drones de l'Iran, l'organisation terroriste a accepté de libérer moins de la moitié du nombre d'otages discutés jusqu'à présent, c'est-à-dire moins de 20 au cours des 6 premières semaines d'un éventuel cessez-le-feu. Le chef de l'état-major Herzliya Levy a visité l'escadron de F-35 à la base de Nevatim en déclarant que les missiles sur le territoire d'Israël méritaient une riposte. Selon lui, l'Iran a voulu endommager les capacités stratégiques d'Israël, mais Tsahal était préparé à cette opération et préparé à amener l'Iran à rencontrer une supériorité aérienne. Nous réfléchissons à nos prochains pas. Ce lancement d'un si grand nombre de missiles et de missiles de croisière et de drones sur le territoire d'Israël suscitera une riposte. On vous retrouve comme prévu à 21h20 pour la suite du journal avec notre invité Meir Masri ce soir. Merci de nous avoir suivis. Au micro, c'était Yael Bornstein. En technique avec moi, Michael Olschfang. Shalom depuis Jérusalem.
Buenas noches, informa Jonathan Meta para Canra y Oreca en español en esta actualización especial de las 9 de la noche. Los medios palestinos informaron que dos palestinos murieron por disparos en un enfrentamiento entre judíos y palestinos en Kirbat al-Tawil, esto es cerca de Akraba, en el Valle del Jordán. Una fuente militar dijo que los colonos dispararon contra los dos palestinos y tras el tiroteo, el ejército acudió al lugar. Mientras tanto, un alto funcionario estadounidense le dijo al canal Al Jazeera que el objetivo de la respuesta israelí no es llevar a una escalada, sino hacer que Irán comprenda las capacidades israelíes para llegar a cualquier parte. El sitio de noticias Axios informa que el ministro de Defensa Gallant le habría dicho a su homólogo estadounidense Austin en su conversación de ayer que Israel no tiene más remedio que responder al ataque sin precedentes con misiles y vehículos aéreos no tripulados, así lo informaron nuestros reporteros. El primer ministro dijo a los ministros del Likud que Israel responderá al ataque iraní, pero debe hacerlo con sabiduría y no desde las entrañas. Deberían estar bajo tensión, tal como ellos provocaron que nosotros estemos bajo tensión. Netanyahu le dijo esto a los ministros y mientras tanto nuestros reporteros informaron que los ministros que hablaron con Netanyahu tenían la impresión de que él quería responder en coordinación con Estados Unidos. Mientras tanto, Israel se prepara para una posible visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Los funcionarios israelíes dicen que las conversaciones con los estadounidenses existían el temor de que Israel reaccionara de inmediato y sin coordinación con Washington. Desde ayer por la mañana, varios líderes mundiales pidieron coordinar una conversación con Benjamín Netanyahu, pero la oficina del primer ministro rechazó todas las solicitudes. Nuestros reporteros informaron en las noticias que se estima que la razón para rechazar las conversaciones es el temor de Netanyahu de que los líderes mundiales lo presionen para que no responda al ataque iraní. El jefe de Estado Mayor, el general de división Herzliya Levy, dijo que el lanzamiento de tantos misiles, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados desde Irán hacia territorio israelí tendrá una respuesta. Durante una visita a la base de Nevatim, cuyo personal participó en frustrar e interceptar el ataque, Levy añadió que Irán cuenta con una capacidad internacional muy fuerte. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, vuelve a decir que su país está comprometido con la seguridad de Israel y con un alto al fuego que permita devolver a los secuestrados a casa y evitar la expansión del conflicto. Al inicio de una reunión con el primer ministro iraquí, al-Sudani, Biden añadió que Washington está comprometido a proteger los intereses y socios de Estados Unidos en la región, incluido a Irak. Afirmó también que los dos países están trabajando juntos para derrotar a ISIS. Se espera que el gabinete de guerra también se reúna mañana para discutir la respuesta al ataque iraní por tercera vez desde ayer. Así lo dijeron las fuentes familiarizadas con el asunto a nuestros reporteros. Dijeron también que no se ha fijado una fecha exacta. Los jefes de Estado Mayor de Seguridad Nacional de Rusia e Israel, Petrushev y Anegvi, conversaron tras el ataque iraní a Israel. En la declaración del Parlamento ruso se escribió que Petrushev enfatizó la necesidad de todas las partes de mantener moderación para no agravar el conflicto. También se afirmó que Moscú aboga por la resolución de disputas exclusivamente a través de la vía política y de medios diplomáticos. Hasta aquí informó Jonathan Meta para Can Radio Reca en español. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana a las 2 de la tarde con nuestra programación habitual. Mientras tanto, Shalom desde Jerusalén.
Kartuleno bani radio kan rik agamis mishnovani khali ambebi mikrofon tan Miriam Shikashvili mogesalmebit omis 192 dghe 193 israelis mokhalake ishev gazashia dara ikneba khva rogor daiqeba chveni sapasukho sabedis tsero tu სატრასასტაულო პასუხი ირანის ირანელ ოკუპანტებთან ერთად. რასაც უმრავლესობით აზრით, ირანმა მოსახლეობაში გავრცელა სინამდვილე, რომ ისინი არ არიან ისრაელები განადგურეს, თუმცა კი მეორე დღეს ირანმა თავისი თვალით ნახა სინამდვილე. ასე რომ ამაღამ თუ ხვარ ან უახლოეს საათებში მოხდება გადაწყვეტილება და გადაწყვეტილებას მიიღებს ისრაელის მთავრობა და რა იქნება უკაცრავად ქველება რა ნერვიულობა მოსალოდნელი ამ საღამოს თუ ხვარ უახლოეს საათებში მნიშვნელოვანი სამხედრო ოპერაციის განმარტვა გიდონ სარი უკვე მინისტრ კაბინეტის მიმართულებით მიემართება და საპასუხო დრამა შესაძლებელია გადაორდეს. არის გამორიცხულო ლიბერმანი და ლაპიდით შოვორდეს კოალიციას. ჩვენ გორდით რჩება ამერიკის პრეზიდენტი და კოალიციის ლიდერები. თითქმის აღარის მის ამერიკული ამერიკელი პრეზიდენტის მხრიდან დონტ და ეს ყველაფერი ვარაუდია და არასინამდვილე. ირანის სურვილი იყო დაეზიანებინა იერუსალიმი, მისი ღირსებები, მისი სიძველეები. თუმცა როგორ იქნება ისრაელის მთავრობის დღევანდელი მთავრობის, რომელიც ნელ-ნელა ერთიანდება, ნელ-ნელა ძალებს იკრებს ძალის, ძალების და ავიაციის სამხედრო ფრონტის პასუხი ეს უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მოსალოდნელია, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია სამხედრო პასუხი. არსებობს გეგმა, რომ ეს უნდა მოხდეს სასწრაფოდ. თავდასხმის მასშტაბები და ბუნება ჯერ არ არის ნათელი. ამერიკულმა ოფიცრებმა წარმოადგინეს ალ-ჯაზირის განცხადება. ისრაელმა შესაძლებელია დაესხას ირანს და მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს. პარალელურად არის კომრეცხული ოპოზიციის მაღალი ჩინოსნები შეუერთდნენ ან უფრო სწორედ ქვეყანა კიდევ ერთხელ ისე როგორც არასდროს გაერთიანეს დანიელ ჰაგარი რომელიც დღეს 20-20 წუთზე ნაბათის ბაზიდან გავრცელა ინფორმაცია ისრაელის მოსახლეობა მოემზადება გენერალ ნევატის ტერიტორიიდან. როგორც უკვე ცნობილი გახდა, დღეს ქვეყნის ჩრდილოეთით 4 მსუბუქიად დაიჭრა, 2 მერე ცოტა უფრო რთული, 1 მძიმე, ყველა გადაყვანილი არის, რა თქმა უნდა, ჰოსპიტალში სამკურნალოდ, ხიზბალამ თავისთავზე აიღო მოვალეობა. ჩვენ რამდენიმე პოლიგონზე ვიბჭვით, განაცხადა ჰაგარმა. რაც შეეხება ზურგის სამსახურის შესაძლებლობას, მოსალოდნელია იგი უფრო გამკაცრდეს და ჩვენ ჯერჯერობით არაფრის გადაწყვეტილება ან არაფრის შეცვლა არ შეგვიძლია. აი ესეთი არის დღესდღეობით გავრცელებული ინფორმაცია, რაც პრესმდივანმა გავრცელა. მეცამეტე არხი საჰაერო ძალებმა დაასრულეს მზადება ირანის თავდასხმისთვის. ხამინაიმ ჯგუფი დატოვა. ბაიდენი ამერიკის შეერთებული შტატები მუდამ ისრაელს უსაფრთხოების ერთგულად რჩება. თეთრი სახლის მაღალი თანამდებობის პირი ბაიდენი არ შეგიშლით ხელს. ირანში მათი გახსნის ტელეგრამის არხი ძლიერდება. როგორ იქნება ჩვენი ხვალინდელი დღე? გასულ შაბათს ირანის თავდაცვის საკვეთისა და ოპერაციის სახელწოდება რკინის ფარი მნიშვნელოვნად ძლიერი იყო, სადაც ისრაელის ავიაციამ, ისრაელის ჯარმა და მთლიანად ყველამ ერთად მნიშვნელოვნად გაიმარჯვა. იმედია, რომ ასევე იქნება შემდგომი მომავალი ეტაპი. ჩვენ გავიმარჯვებთ. მოდის გიხდით ჩემი არ თუ ისე ჯამრთელი მეტყველებისათვის. გემშვიდობებით, შალომ იერუსალაიმ.
რადიო შემოგვიმოდებოდა მოხტრამდარი უშალამ ხოდერსეთი ნოი პუნზა მოიმბედი ხეთან ფანში დათიხა მალუმოთო მერსონიმ ასაბები კი რუსი აქსდუ ნუბუდუი რუსი ჯანგის შეხოი თემურიშ და ისოდაგასტ ფორმოშნი გუნიმ კეორი აქსდუ სიუსენა ფარ ბეგრავი კრიფტი ჟგანდარ დასი დაშკლოთი ხამასას გარჩანდი კი ორი აქსდუ სიუსე ბოშან ანაკაი სიუდუ სიუსენა ფარ ასონჰო ნუბუდ შუდანდ ეშკილოთი ხამას იმბროს მალომ კარკი ბე ოზოდ კარდენი ბის ბაგრავი გრიფტაშნი გიონ თეორ ჰას ამოაზ ისრაელ თანაპ კარდე ისოდას ბოიატ შიშ ჰავტე ჯანგ ბას კარდე შვად ბღაირაზონ ეშკილოთი ხამად გუსტე ისოდას კი მოიან ბედიგარ ხოიში ისრაელი გონ როზიგი ხუდრო დოდენი ნესტი ბროი ამა ბაგრავი გრიფტაშნი გიონ რო ოზოდ კარდან باید همه در ترمه میشستگان در ترمه اسرائیل عربایی که هستن باید آزاد کردشان گفته تشکیلاتی خماس از اسرائیل طلب کرده ایستاده است. سر رهبری اپوزیسیا یائیر لپید امروز هم برآمد کرد و گفت که مایان به زودی انتخابات گذراندامان در کار سروزیر اسرائیل که حاضر حکمرانی را گذرانده ایستاده است او فقط حالت اسرائیل رو به بدی آورده شده است به نیکی به نیکی. وزارت مدافع اسرائیل معلوم کرد که دو بریگاد روسی رزرو استرا به خدمت ارمیا تکلیف کرد برای که در این پسخ که مویان با یک هفته پیشواز میکنیم برای محافظت کردن خلق اسرائیل رو به نارومی از طرفی سکتر سرنشان گفته در اونجا در اسکرها رو جای گیر کردنی هست. قریب بعد 14 سال در همین بار هم ترکیه به سکتر از کشتی خود رو فرساندنی هست. 14 سال پیش کشتی مرمرا که به سوی سکتر از فرسانده شده بود اسرائیل به دراندنی این کشت ایگان امکانیت نداد و اجازت نداد. و در آخر علاقه ها بین ترکیه و اسرائیل ویران گردید برای چند سال گرچنده که آنها با سلجوی کرده باشند در همین جنگی که حاضر در سکتر از شده ایستاده است باز حالت علاقه اسرائیل و ترکیه ویران کرده شد. امروز فگاهی قوی بخطری اسرائیل معلوم کرد که 4 اسکرهای قوی بخطری اسرائیل در سرخدی لیوان یارادور گردین حالت یک اسکر حالو وزمین هست. امروز در پیشین روز گینرال ها و سروزری اسرائیل بیمین نتانیاو مجلس گزانده رفتاری ایران رو که در آخری هفته در سری همین هفته شده گذاشت از نظر گزاندن. خاطر میرازان که در سری همین هفته اختر موسی شبات توی شب ایران به سوی اسرائیل تخمیناً 200 راکت ها پرانده ضرر رساندنی بود، اما 99% راکت ها از سیستم ها و سمالات های اسرائیل امریکا و دیگر دولت ها اونها را افتانده تونستن. تخمیناً 40 راکت ها را یردانی افتانده تونست. اونا نشون میکرد که علاقه ها بین اسرائیل و یردانی حالا دهم داده استاده است. اسرائیل از نظر گذراندنی هست که به ایران باید جواب دادن، اصلا که اگر سیستم آنو میشود در اسرائیل بسیار مروری شده آنش ممکن بود گفته معلوم کرد. وزیر مدافع اسرائیل یوآف گالانت با کسب خود امریکانی صحبت کرده پیمان داد که مایان البته جواب به ایران دادن و شرط. خود یک پریزیدنت ایالات متحده امریکا جو بایدن گفته بود که حالتی که اسرائیل درآمد در همون شب در موسیل شب دوی شب ג'ודו ורנינבוד, כי אירון בסויי, ישראל תכנן דוסת רקטה הופר מודה נורמיו אוורד. קודם כל אחד פגור סעת ידעו זמין בשרון בו יקט שם מעלומותכו מרסונים. שלום מירושלים.
Il est 21h. Vous êtes sur Cannes, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro. Yael Bornstein en technique avec moi, Michael Olschwang. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. L'opération terrestre à Rafiar, dont personne ne connaissait la date, a été retardée, vraisemblablement en fonction de l'actualité brûlante de ces dernières 48 heures, alors qu'Israël se remet doucement de l'attaque iranienne. Il est maintenant question de la riposte israélienne, immédiate ou en décalé. Là est la question que le monde se pose et c'est l'une de celles que nous poserons ce soir au docteur Meir Masri qui sera notre invité. On l'entendra aussi sur la nouvelle configuration du Moyen-Orient et sur l'influence des pays du Golfe Persique. Il sera avec nous dans quelques instants. Puis dans le troisième volet de Quoi de neuf docteur Ariella, on parlera ce soir du contenu de la trousse de secours idéale et du rôle exact du secouriste. Mais avant cela, commençons par les nouvelles de ces dernières 24 heures.
Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présentée par Ariel Bornstein.
Quatre soldats de Tsahal ont été blessés la nuit dernière par une explosion lors d'une activité opérationnelle en territoire libanais. L'état de l'un d'eux est grave. Il a subi une intervention chirurgicale vitale à l'hôpital de Naharia. Deux autres soldats ont été légèrement blessés et modérément, tandis que le quatrième a été sauvé sur le moment. Leurs familles en ont été informées. L'explosion qui a blessé les quatre combattants s'est produite entre des dizaines et des centaines de mètres en profondeur du territoire libanais. L'incident a fait l'objet d'une enquête. Le Hezbollah a revendiqué cette attaque, affirmant que ce sont des engins explosifs posés sur le territoire libanais, près de la frontière, qui ont blessé les quatre soldats la nuit dernière. Le nom de l'opération visant à intercepter et à contrecarrer l'attaque iranienne au cours de laquelle des centaines de missiles et de drones ont été lancés sur Israël a été annoncé aujourd'hui. Il s'agit de boucliers de fer. Double jeu des pays occidentaux, les pays européens annoncent les uns après les autres qu'ils se tiennent aux côtés d'Israël, convoquent les ambassadeurs iraniens pour des entretiens et en même temps exigent qu'Israël s'abstienne de toute escalade après l'attaque iranienne. Mais un haut responsable américain précise ce soir que le président Joe Biden n'empêchera pas Israël de riposter. Nous sommes attachés à la sécurité d'Israël et aussi à la protection des intérêts américains et de ses partenaires dans la région, y compris l'Irak. C'est ce qu'il a déclaré lors de sa rencontre avec le premier ministre irakien. Pendant ce temps, l'Iran maintient ses menaces. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdoualian, a déclaré lors d'un entretien avec son homologue britannique que Téhéran n'était pas intéressé par une escalade des tensions, mais qu'il réagirait immédiatement et avec plus de force qu'avant si Israël ripostait dans le contexte de la seconde discussion. Et en une journée au sein du cabinet de guerre et de la possibilité d'une riposte rapide israélienne à l'attaque iranienne qui comprenait le tir sans précédent de plus de 300 missiles et drones. Le premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré aujourd'hui qu'il s'entretiendrait avec le premier ministre Benjamin Netanyahu. La chaîne de télévision Qatari Al Jazeera a cité un responsable américain qui a déclaré qu'Israël pourrait attaquer des cibles situées au cœur de l'Iran. Pour lui, la réponse éventuelle d'Israël n'a pas pour but d'aggraver la situation, mais de faire comprendre à l'Iran ses capacités militaires et stratégiques. Il a ajouté qu'Israël nous n'avons pas été informés d'une date pour une éventuelle riposte. Nous poursuivons nos efforts pour empêcher une nouvelle escalade, mais la décision reste entre les mains de Jérusalem. On va parler ce soir de cette attaque iranienne, de la riposte israélienne, des conséquences de tout cela sur le Moyen-Orient, avec le docteur Meir Masri, que j'ai le plaisir de retrouver enfin. Bonsoir docteur.
Bonsoir Cheryl.
Bonsoir docteur Meir Masri. Très heureuse de vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient. Je voudrais qu'on parle tout d'abord de la configuration du Moyen-Orient depuis cette attaque iranienne direct.
Bien, alors tout d'abord, il n'y a pas de nouvelle configuration du Moyen-Orient. C'est que juste que nous sommes revenus à l'état de géopolitique de la région d'avant le 7 octobre, c'est-à-dire que nous sommes entourés après tout d'États, ça veut dire d'entités politiques souveraines et soucieuses de leur souveraineté qui se comportent en État. Nous avons vu immédiatement une collaboration impeccable de la part de l'ensemble des pays de la région. Même les pays sous domination iranienne ont quand même eu des positions assez nuancées. Je pense notamment à l'Irak, qui a appelé à la désescalade et qui a dit qu'il n'était pas intéressé à ce que son territoire ne fasse partie ou ne soit impacté par le conflit.
Ça, c'est à cause des relations avec les États-Unis ? Parce que ce n'est pas nos meilleurs alliés.
C'est parce que l'Irak est beaucoup plus grand, beaucoup plus important que le Liban et que la force et que le dispositif milicien mis en place par les Iraniens est beaucoup plus récent. Il est beaucoup moins enraciné dans le paysage politico-militaire irakien que ne l'est le Hezbollah au Liban, par exemple. Et donc l'État irakien a une marge de manœuvre un peu plus importante que celle dont dispose le gouvernement libanais. Voilà. Somme toute, il y a quand même les pays de la région ont réagi de manière étatique, notamment les pays où l'Iran n'exerce pas d'influence. L'Iran n'a pas manqué de menacer ces pays. Il aurait peut-être pu avoir l'intelligence d'éviter cela, parce que on voit bien, par exemple, un pays comme la Jordanie qui a totalement coopéré avec Israël. L'armée de l'air jordanienne, par ailleurs, aurait intercepté une dizaine ou plusieurs dizaines plutôt de projectiles iraniens, tout en laissant également son espace aérien à disposition de l'aviation de l'armée de l'air israélienne. L'Arabie saoudite a également laissé les alliés d'Israël agir en toute liberté dans son espace aérien pour intercepter donc les drones et missiles en provenance de la République islamique, mais aussi du Yémen. Donc on voit donc qu'il y a une attitude d'État, une attitude qui est totalement conforme à la logique étatique de la part des pays du Moyen-Orient. Et bien sûr, il y a un rôle très important qu'a joué les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, et la France également. C'est surtout les Américains qui ont fait comprendre qu'ils ne lâcheraient pas Israël et qu'ils seront là pour le soutenir et défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté qui a été violée de la manière la plus flagrante. Et puis Israël également a été victime d'un crime de guerre, hein, parce que je signale ici que les missiles balistiques sont des missiles de très faible précision. D'ailleurs, nous en avons intercepté au-dessus de la Knesset, au-dessus de à quelques dizaines de mètres de hauteur de du Dôme du Rocher.
Oui, absolument. On a vu les images qui sont...
Je me demande si Israël n'avait pas intercepté ce missile. Est-ce que le monde musulman aurait condamné Israël ou l'Iran? Et puis enfin, je m'étonne des scènes de liesse qu'on a pu voir à la télévision en provenance de la ville d'Hébron, par exemple, et d'autres villes également de Cisjordanie, quand on sait que un nombre important de missiles, mais aussi de drones, ont été interceptés par le dispositif militaire israélien au-dessus de la Judée-Samarie.
Alors, vous parliez tout à l'heure du message clair des États-Unis, de Joe Biden, et on a vu les réactions des pays amis d'Israël. Vous nous avez parlé aussi il y a quelques instants de quelques réactions et de l'implication, de l'influence de certains pays du Golfe Persique. Quelque chose qui a retenu mon attention tout de même, et là, c'est pas du tout le même discours que lorsqu'il s'agit de la guerre avec Gaza. Là, Biden dit « la décision est entre les mains de Jérusalem ». Et c'est « nous, on veut juste être informés de quand est-ce que ça va se passer pour que ce soit fait en collaboration avec nous, qu'on ne soit pas surpris de l'apprendre ». Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose d'assez nouveau comme message ?
Non, c'est-à-dire que les Américains comprennent la nécessité pour Israël. Je dis bien la nécessité, hein, ce n'est pas vraiment un choix, c'est... Il est absolument indispensable de réagir, de riposter. Tant question de savoir comment, où et à quel moment. Faut-il le faire ? Ce n'est pas obligatoirement de le faire immédiatement. Alors, une fois qu'on a dit ça, les Américains ont quand même des intérêts dans la région, mais aussi dans les pays, donc notamment dans les pays du Golfe, mais pas que. Et ils n'ont pas envie que leurs intérêts soient menacés par les Iraniens. Les Iraniens ont très bien fait comprendre que si les Américains n'agissent pas de manière frontale ou ne participent pas à une action coercitive d'Israël en territoire iranien, eh bien, ils seront épargnés. Donc, c'est si simple que cela. Donc, pour moi, c'est un message de soutien de la part des Américains, de compréhension, et qui indique quand même qu'il y a un minimum de coordination entre entre Jérusalem et Washington. Les Américains, de mon point de vue, bénissent une action coercitive en territoire iranien, sinon ils n'auraient jamais dit vous demandez à Israël de les prévenir plus tôt et de dire qu'ils ne participeront pas, ce qui sous-entend qu'il est fort probable ou probable qu'une action de cette nature soit effectuée. Alors, pourquoi c'est important de réagir? Tout d'abord parce que une ligne nouvelle a été franchie. Pour la première fois, l'Iran a effectué des attaques en territoire israélien et l'a revendiqué de la manière la plus théâtrale qui soit, en avertissant plusieurs heures à l'avance. De toute façon, on l'aurait su, parce que bon, ça prend du temps.
Ben c'est ça, c'est que c'est quelque part au niveau stratégique, à part faire beaucoup de bruit, on a eu le temps de mettre tout le monde dans les abris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça a pris 20 minutes pour venir, une demi-heure, parfois plus.
Oui, mais ça a été une démonstration de force qui vise notamment les sympathisants du régime iranien dans la région, puisque l'objectif de l'Iran n'est pas de combattre Israël. Le véritable objectif stratégique de long terme du régime issu de la révolution islamique d'Iran de 1979, c'est de pouvoir pénétrer en territoire sunnite, et notamment dans la région arabe, donc dans la région du Golfe, mais dans la région arabe moyen-orientale de manière plus globale. C'est l'objectif principal des Iraniens, qui se considèrent comme la principale puissance du monde musulman, comme le parrain de l'islam dans le monde. Et donc il se met là en concurrent et rival de l'Arabie saoudite, qui... en abritant les principaux lieux saints de l'islam, est traditionnellement perçu comme le représentant de l'islam dans le monde. En plus, c'est le pays qui siège l'organisation de la conférence islamique. Donc le régime iranien a voulu là démontrer sa force, montrer qu'il a été capable, que c'est le seul pays du monde islamique et qui est en mesure de lancer des missiles et des drones sur Israël, quelque chose qui n'a jamais été fait depuis Saddam Hussein lors de la guerre de libération du Koweït. Néanmoins, l'Iran n'a pas, les Iraniens ne l'ont pas fait en réaction à l'offensive israélienne à Gaza, mais ils l'ont fait pour des raisons qui sont complètement internes au régime iranien, propres au régime iranien, à savoir venger donc la mort de miliciens iraniens en territoire syrien, donc dans une attaque qui a été attribuée à Israël.
Alors, qu'est-ce que vous pensez du moment choisi, enfin, qui se dessine, hein? On entend de Washington, par des médias étrangers, notamment Al Jazeera, et aussi sur le New York Times, que la riposte israélienne peut être immédiate, c'est-à-dire d'un moment à l'autre. Est-ce que on perdrait de la légitimité à riposter dans plus longtemps, ou est-ce que vous pensez que le moment est choisi maintenant, alors qu'on est en pleine guerre avec Gaza et qu'on est évidemment en guerre avec le Hezbollah aussi? Qu'est-ce que vous pensez de cette... Je ne voudrais pas dire le mot timing, mais vous avez compris, oui, ce que je veux dire.
Alors, moi, je pense... Alors, tout d'abord, je pense qu'Israël a bien fait de ne pas réagir, de ne pas avoir réagi à chaud, hein, parce qu'on sait que
le cabinet
de guerre a été divisé, que... Bon, ça n'est plus un secret, ça a été dévoilé par la presse israélienne, par les médias israéliens, que deux membres du cabinet voulaient justement qu'Israël riposte durant même... alors même qu'on était en train de subir l'agression iranienne. D'abord, ça n'est pas nécessaire de réagir rapidement. Je pense que la menace est plus importante, est une sanction plus importante pour les Iraniens que son exécution. D'ailleurs, ça a été également le cas pour nous, puisque en fin de compte, cette attente-là, c'est une sanction pour l'économie du pays, pour la vie de la nation. Et donc, et puis aussi pour les relations entre l'extérieur du pays. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément, dans l'obligation de réagir dans l'immédiat. Alors maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'il faille le faire dans 2 ans. Hein, ça n'aura pas tellement de sens. Mais je pense que oui, il faut effectivement profiter de ce regain de sympathie internationale qu'a provoqué l'agression iranienne. Et il faut dire cette sympathie qui manque à Israël depuis le mois d'octobre, qui s'était effritée au fur et à mesure donc qu'on avançait dans le temps, alors que nous sommes en train de combattre le terrorisme dans la bande de Gaza au prix de nombreuses victimes. Alors, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense qu'Israël n'attaquera pas, la vengeance ne doit pas se faire sur les proxys de l'Iran.
Pour
la simple raison
qu'ils n'ont pas utilisé leurs proxys pour nous attaquer.
La vengeance, la riposte, ne doit pas se faire de cette manière-là, parce que cela limitera par la suite l'action d'Israël, puisque on va continuer à se battre contre les proxys de l'Iran. Donc il ne faut pas que ça ait l'air d'être une riposte, ce qui signifierait que par la suite, on ne pourra pas tellement le faire, puisque tant que l'Iran ne nous aura pas attaqué. Donc la guerre contre les proxys de l'Iran est une guerre qui est des plus légitimes, et elle ne doit pas être liée à l'agression iranienne. Nous avons été agressés par l'Iran, donc l'agression, la contre-attaque, la riposte doit se faire en territoire iranien. Et puis, enfin, je pense que la riposte ne devrait pas être trop importante, parce que l'objectif n'est pas de provoquer l'escalade et non plus de réduire la sympathie dont bénéficie aujourd'hui Israël. Alors bien sûr, une action militaire de grande envergure dans l'objectif de détruire le programme nucléaire iranien ou de le retarder de manière très significative, voire même de provoquer la chute du régime, c'est quelque chose à laquelle je suis complètement favorable, mais qui doit se faire en coordination, en coopération totale avec les partenaires régionaux d'Israël et bien entendu avec les États-Unis, sans lesquels une opération de grande envergure ne peut avoir lieu, en tout cas avec des objectifs significatifs. Donc riposter, oui, ça doit se faire en territoire iranien, et la riposte doit être douloureuse mais limitée.
Docteur Meir Masri, merci encore pour cette analyse. C'est un plaisir de vous retrouver. À très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
Partager.
Au revoir, docteur.
Au revoir.
Le porte-parole de Tsal, le lieutenant-colonel Daniel Agari, a déclaré dans une conférence de presse aux médias depuis la base de Nevatim que la base était entièrement fonctionnelle grâce aux pilotes. L'attaque iranienne a été déjouée presque sans qu'il pénètre sur notre territoire. Le coup s'est produit près d'une piste d'atterrissage dans une zone dégagée et une autre près d'un bâtiment en construction. Il a ajouté que nous procédons à des évaluations de la situation et surveillons l'évolution. Au nord, dans la nuit, 4 combattants ont été blessés, ce dont on vous parlait en début de journal. Nous étudions toujours l'origine de cette attaque, mais ce soir nous n'oublions pas les 133 otages. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de Tsahal. Quant au ministre de la Défense, Yoav Gallant, il a tenu une discussion sur le thème de la préparation des opérations civiles nécessaires à l'entrée terrestre des forces de Tsahal dans la ville de Rafiar, dans le sud de la bande de Gaza. Il a souligné que conformément à la décision du cabinet, les préparatifs devaient être faits pour mener une série d'opérations avant l'incursion terrestre, en mettant l'action sur l'évacuation des civils de Rafiar et l'expansion des routes pour acheminer la nourriture et le matériel médical vers la bande de Gaza. La Grande-Bretagne et la France tentent de convaincre Israël de ne pas riposter aux attaques de missiles et de drones iraniens. Le ministre des Affaires étrangères britannique David Cameron, dont le pays a participé, je vous rappelle, aux interceptions, a déclaré à la BBC qu'il était justifié de penser que les Israéliens devraient réagir parce qu'ils ont été agressés. Mais la Grande-Bretagne les exhorte en tant que société à penser avec la tête, tout comme avec le Kerr, ministre des Affaires étrangères britannique, ainsi que celui de l'Allemagne, sont attendus tous les deux prochainement en Israël. En France, Emmanuel Macron a déclaré quant à lui que Paris ferait tout en son pouvoir pour convaincre Israël de ne pas riposter. Pour Macron, l'Iran a réagi au bombardement de Damas de manière disproportionnée et le droit d'Israël doit être défendu pour assurer sa protection. La France qui renforce par ailleurs la sécurité autour des écoles juives et des synagogues, en partie à cause des tensions entre Israël et l'Iran après l'attaque sans précédent. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans son compte sur le réseau X à l'approche de la fête de Pâques juive. Et compte tenu de la situation internationale actuelle, j'ai demandé aux autorités locales d'augmenter considérablement la sécurité dans les endroits où se trouvent nos citoyens juifs, notamment en ce qui concerne les synagogues et les écoles. C'est ce qu'il a écrit. EasyJet annule ses vols depuis Israël vers diverses destinations en Europe, notamment le Royaume-Uni, la Suisse, l'Italie, et ce jusqu'à la fin du mois, tout au moins. EasyJet a confirmé cette annulation. Rafi Milo, le chef du commandement intérieur, a commenté les critiques concernant la levée des restrictions hier vers minuit en affirmant qu'il était conscient de la difficulté des conseils régionaux et locaux à s'organiser pendant la nuit. Donc le retour a été progressif. Pour lui, ce n'est que vers minuit que l'accord et la décision de lever les restrictions ont pris forme dans le souci de faciliter un assouplissement de la politique de défense tout en maintenant la sécurité. Nous sommes dans une longue guerre et dans les prochains jours, des changements peuvent être apportés à la lumière de l'évaluation de la situation. Deux hauts responsables politiques ont révélé hier la réponse reçue par les médiateurs du Hamas pour l'accord de libération des otages, alors qu'en Israël, ils se préparaient à l'attaque des missiles et des drones de l'Iran. L'organisation terroriste accepte maintenant de libérer moins de la moitié du nombre d'otages discutés jusqu'à présent, c'est-à-dire moins de 20 au cours des 6 premières semaines d'un éventuel cessez-le-feu. Malgré les avertissements de Tsahal, des foules de Palestiniens revenant vers le nord de la bande de Gaza ont été enregistrées. Les responsables de la sécurité en Israël ont affirmé que ceux qui tentaient d'atteindre la zone étaient bloqués et renvoyés vers le sud. La mort de Malek Mohamed Haniyeh, le petit-fils du chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, blessé mercredi dernier dans le camp de réfugiés à Shati, à l'ouest de la ville de Gaza, lors d'une opération visant à éliminer 3 de ses enfants, a été déclaré aujourd'hui mort à l'hôpital. C'est ce qu'a rapporté le réseau Al-Mayadin, affilié au Hezbollah. Au total, 4 petits-enfants de Ismaël Haniyeh ont été tués dans cette attaque. En Judée-Samarie, les policiers ont tué un terroriste la nuit dernière et arrêté une personne recherchée lors d'une opération antiterroriste à Naplouse. Les agents infiltrés ont opéré dans la zone avec les forces de Tsahal sous la direction des renseignements et du Shin Bet. Lorsque les agents d'infiltration sont arrivés au domicile de l'homme recherché, sa femme a affirmé qu'il n'était pas chez lui. Avec l'aide d'un chien tactique, les policiers ont localisé la personne recherchée et l'ont arrêté. Au cours de l'activité, de violents troubles se sont produits sur place et un terroriste ayant lancé un engin explosif sur les forces de sécurité a été abattu par les agents infiltrés. En outre, un autre émeutier a reçu une balle dans la jambe après avoir mis en danger la sécurité des forces de l'ordre. Aucune victime chez les Israéliens. L'inflation augmente, on en parlera demain avec Yael Ifra. L'indice des prix à la consommation a augmenté en mars de 0,6% au-delà des prévisions et a porté l'inflation annuelle à 2,7% contre 2,5% le mois dernier. C'est ce que révèlent les données du Bureau central des statistiques. Le prix des appartements ont augmenté de 1% en février, mais évolué pour la première fois depuis un an et demi à une hausse annuelle de 0,3%. Des augmentations de prix importantes ont été enregistrées aussi dans les sections suivante, normalement les vêtements, les chaussures qui ont augmenté de 2%, culture et divertissement, logement 0,6%, santé. Et on parlera demain des prix des fruits et légumes ainsi que des produits laitiers qui augmenteront immédiatement après la fête de Pessah. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, s'est exprimé devant le plénum de la Knesset en s'adressant une fois de plus aux ministres Benny Gantz et Gadi Eisenkot, les invitant à renverser le gouvernement. Il siège au gouvernement parce qu'il pense que c'est la bonne façon de mettre en place leur influence, mais ce n'est pas le cas. Nous devons former ensemble un gouvernement dans lequel ils auront beaucoup plus d'influence. Lapid a ajouté, Gantz a beau être ministre, il n'y a aucun citoyen qui n'accepterait pas qu'Eisenkot soit ministre de la Défense. C'est le moyen de créer une réalité différente ici, notamment vis-à-vis des Américains, pour notre économie et surtout pour notre sécurité. Chaque fois qu'ils nous annoncent la nouvelle proposition au cabinet, personne ne les écoute. Et puis en Australie, deux jours après une attaque au couteau qui a fait 6 morts à Sydney, la police australienne a annoncé l'arrestation d'un homme dans l'ouest de l'agglomération qui a blessé plusieurs personnes avec un couteau. Les victimes souffrent de blessures ne menaçant pas leur vie, c'est ce qu'a déclaré la police australienne. Les ambulanciers indiquent que 4 hommes sont blessés. D'après le média Nine News, ils ont entre une vingtaine et une soixantaine d'années. Les médias locaux précisent que cette nouvelle attaque est survenue dans l'église assyrienne de Wakely Christ the Good Shepherd. L'homme a été poignardé à plusieurs reprises. C'est le prêtre de l'église en train de prononcer un sermon qui était retransmis en direct sur Internet. La météo demain, le temps sera nuageux et jusqu'à clair. Les températures seront plus ou moins conformes à leur moyenne annuelle. Tel Aviv 22, Jérusalem 20, Haïfa 23, Tibériade 25, Tzfat 15, Ashdod 21, Beersheba 24 et Eilat 27 degrés. Il est 21h44 et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Michael Olschwang pour le travail en technique. Au micro, c'était Yael Bornstein. À demain et shalom depuis Jérusalem. Littérature, société, culture, spectacle, le magazine de Cannes en français.
Quoi de neuf, docteur Ariella ? Bonjour docteur Ariella.
Bonjour.
Merci de nous retrouver sur Cannes en français, toujours dans notre rubrique Quoi de neuf, docteur Ariella, avec aujourd'hui un nouvel épisode, celui de la trousse de secours. Alors on se demande toujours ce qu'on doit y mettre, qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce qui est primordial. Et avant de parler de tout ça, je voudrais que vous me disiez quel est le rôle du secouriste en fait.
Ah, super. Écoutez, en fait, Le sauveteur, dans ce cas-là, le secouriste, il doit penser à 3 choses quand il prépare sa trousse de secours. La première des choses, on a de cesse de le répéter, c'est sa protection. Deuxièmement, c'est l'alerte. Et troisièmement, et c'est très important, on va le comprendre quand on va détailler la trousse de secours, il faut qu'ils se mettent en tête si je suis en face d'une plaie, est-ce qu'elle est grave ou pas. Parce qu'en pratique, dans une trousse de secours, on va trouver tout ce qui sert pour les plaies simples ou les brûlures simples. On va trouver tout ce qui sert pour les plaies graves. On va trouver tous les objets nécessaires pour les premiers secours. Et une quatrième partie où il y a tous les indispensables. Mais pour comprendre pourquoi on met ça dans la trousse de secours, il faut se demander... quel est effectivement le rôle du sauveteur? Et bien, le rôle du sauveteur, c'est de se poser la question, est-ce que la plaie est grave ou pas? Et pour savoir si elle est grave, il doit se poser 4 questions. Les 4 questions, c'est 1, est-ce qu'il y a une hémorragie? Donc ça, on en a déjà parlé. 2, est-ce qu'il y a un corps étranger? 3, quel est l'aspect de la plaie? Et 4, où est la plaie? Et si on reprend à minima chaque item, l'hémorragie, on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a un corps étranger? Eh bien, on en avait un petit peu parlé, mais je le redis. S'il y a quoi que ce soit, comme un couteau, un morceau de verre, tout mécanisme qui est pénétrant, c'est-à-dire un objet tranchant, perforant, des projectiles, des éclats, on ne touche pas. Ça fait partie des plaies graves, qu'on appelle graves. Quand on parle de l'aspect, la troisième question, c'est quel est l'aspect? L'aspect, évidemment, si c'est écrasé, déchiqueté, amputé ou quoi que ce soit, on ne touche pas. Ça fait partie des plaies graves. Et où est la plaie? Alors ça, c'est très important comme question que le sauveteur doit se poser. Parce qu'en fait, vous savez, on avait parlé du protocole des 3 A. Les 3 A où on dit appuyer, alerter et allonger. Le allonger, c'est dans la plupart des cas. Ça s'appelle la position d'attente. C'est-à-dire en attendant les secours devant une plaie grave, comment on met le blessé? Eh bien, en l'occurrence, dans la plupart des cas, on la met en position allongée, mais il y a 2 exceptions à ça, et ça fait partie des plaies graves. C'est si ça touche la poitrine, si ça touche le ventre, ou si ça touche les yeux. Si ça touche la poitrine, le thorax, la position d'attente, elle va être assise, elle va pas être allongée, pour pouvoir faciliter la respiration et que la personne puisse mieux respirer. Si la plaie, elle touche le ventre, la position d'attente, là, elle est sur le dos, allongée, mais avec les jambes fléchies, pour pouvoir favoriser le relâchement des muscles du ventre, comme ça, ça se détend complètement, et ça permet aussi, secondairement, de diminuer la douleur. Et troisièmement, quand je vous parlais des yeux, si on a une plaie à l'œil, c'est considéré aussi comme une plaie grave, et dans ce cas-là, le blessé, on le met en position allongée, les yeux fermés, et on demande surtout de ne pas bouger la tête, parce que les yeux fermés et la tête qui ne bouge pas, ça permet d'éviter et de limiter les complications. Donc le rôle vraiment du sauveteur, c'est se poser quatre questions en plus de la protection et de l'alerte. Donc c'est, est-ce qu'il y a une hémorragie? Est-ce qu'il y a un corps étranger ou pas, qu'on ne touche pas dans ce cas-là? Et quel est l'aspect? Et où est la plaie? Et quelle est la position d'attente pour la plaie?
On part du principe, docteur Ariella, qu'il vaut toujours mieux faire que de ne pas faire.
Exactement, c'est-à-dire que de toute façon tout ce
parce
qu'on
que ça fait peur ce que vous dites. Hein. Moi, je me retrouve demain devant une plaie, donc une hémorragie, hein, et j'essaie d'utiliser mon kit de secours. Je me dis peut-être que je vais faire plus de mal que de bien, mais vous me dites non, faites-le quand même.
Si vous êtes protégé et que vous avez
donné l'alerte,
voilà, donné l'alerte, vous pouvez agir parce que ce qu'on va mettre dans la trousse de secours, vous allez voir, c'est en fait, vous le savez déjà.
D'accord.
Avec déjà les deux premiers podcasts sur l'hémorragie entre le pansement compressif et le garrot, ça c'est pour les plaies graves, et pour tout ce qui est plaie donc simple, où il n'y a pas de corps étranger, où l'aspect est correct, superficiel, où c'est voilà, vous allez avoir ce qu'il faut. Donc concrètement, on peut agir. Vraiment, n'hésitez pas à agir à partir du moment où vous êtes en sécurité. Vous pouvez agir et vous avez les moyens d'agir avec ce qu'il y a dans la trousse de secours.
Alors, qu'est-ce qu'on y met dans cette trousse de secours? Qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui est superflu?
Alors, je me permets, Yael, comme ça on ne sera pas redondant dans les explications, juste d'expliquer vite fait comment on traite une plaie qui est donc simple et comment on traite une plaie qui est grave. On va peut-être commencer d'ailleurs par la plaie grave parce qu'on l'a déjà vu. La plaie grave, entre guillemets, c'est simple. On se protège, on alerte, on a le protocole des 3A où on appuie, on alerte, machin. Et concrètement, en termes de traitement, c'est on appuie, on rince abondamment avec de l'eau, si possible. Pour le pansement compressif, on met un paquet de compresses et on fait le bandage. Ça, c'est si c'est une plaie qui est grave. D'accord. Et après, il y a tout ce qui est garrot, mais on en a déjà parlé. Pour ce qui est de la plaie simple, ça va toujours être le même protocole. On se lave les mains à l'eau et au savon. On nettoie abondamment la plaie avec de l'eau, du savon ou ce qu'il y a comme désinfectant pour éliminer tous les germes. On peut même s'aider de compresses pour enlever toutes les dernières souillures. On sèche avec un autre paquet de compresses la plaie. On met de l'antiseptique. Puis, on prend un pansement. Vous allez voir que dans la trousse de secours, il y a trois types de pansements, mais le protocole est le même.
Okay.
C'est, on prend le pansement, on retire le film protecteur du pansement, on applique le pansement de telle façon à recouvrir entièrement la plaie, on lisse les bords du pansement pour s'assurer que l'adhérence soit complète et on vérifie que ça soit bien collé partout pour empêcher toute entrée d'air ou de contaminants qui pourraient entraîner une infection. Donc, est-ce que vous avez compris, elle, le traitement, le schéma de base d'une plaie simple et d'une plaie grave?
D'accord, tout à fait. Bon. Non, pour le coup, c'est bien clair.
Très bien. Alors, du coup, on peut passer à ce qu'il y a dans la trousse et qui nous intéresse. Donc, la première partie, c'est tout ce qui est contre, comme on a dit, les plaies simples ou les brûlures simples. Donc, en fait, il va y avoir les compresses, d'accord, qui vont servir à désinfecter, à sécher ou à faire le pansement compressif. Il va y avoir trois types de pansements. Les pansements adhésifs qu'on connaît tous. Là, quand on va mettre dans la trousse de secours, il faut bien penser à ce qu'il y ait des tailles différentes, que les formes soient différentes aussi, qu'il y ait des formes différentes, notamment pour qu'on puisse les mettre au niveau des articulations et qu'on puisse bouger confortablement. Et c'est toujours bien d'en mettre aussi avec des dessins, que ça soit adapté aux enfants. Ça, c'est pour les pansements adhésif classique qu'on va mettre sur des blessures mineures comme des éclats ou des débris, mais qui causent des petites coupures.
C'est ça, et des petites plaies.
D'accord. Voilà. Après, on va mettre le deuxième type de pansement qui est le pansement occlusif. Donc ça, c'est le stade un peu au-dessus. Le pansement occlusif, c'est celui où je pense que peut-être vous avez déjà vu, c'est un pansement mais avec l'intérieur blanc qui est plus épais.
Oui,
ça, c'est
oui.
Pour les, voilà, ça c'est le même protocole hein, que le pansement adhésif ou pour celui dont je vais vous parler. C'est toujours la même chose, hein. On nettoie, on sèche, on met le désinfectant, enfin comme je vous ai expliqué avant, on suit le même protocole et ça permet de protéger la peau, mais de façon un peu plus importante que le pansement adhésif, et surtout il va être plus adhérent à la peau et ça permettra de moins faire passer encore moins tout ce qui est souillure. Et enfin, le troisième type de pansement, ça va être, alors c'est un peu grossier médicalement parlant, ça s'appelle un pansement hydrocolloïde, mais en pratique, c'est un compide.
Donc, ah oui, d'accord.
et donc, en fait, le compide, c'est toujours bien d'en avoir dans sa trousse de secours.
Ah oui ?
Parce que c'est une double peau.
Oui, c'est ça crée une nouvelle peau, ouais.
Voilà, et donc ça permet de réduire les frottements, ça diminue la douleur. Ça peut être pour les ampoules, pour des petites brûlures. Enfin, c'est toujours bien d'avoir des compides dans la trousse. Donc, pour tout ce qui est plaies simples, vous voyez bien qu'on a les compresses, les pansements adhésifs, les pansements occlusifs, où le blanc est un peu plus épais, et les compides, tout simplement. Et pour la deuxième partie de la trousse, pour ce qui concerne les plaies graves, eh ben là, on a déjà les compresses, parce qu'on les avait mis pour les plaies simples, on va mettre des bandes de gaz, vous savez, pour faire le bandage pour un pansement compressif. On va prendre aussi un ruban chirurgical. Donc, en pratique, un ruban chirurgical, c'est un scotch. La seule différence, c'est que le ruban chirurgical, il est adapté à la peau, il est hypoallergénique, il se déchire facilement. Donc, c'est toujours mieux d'avoir un ruban chirurgical. Et après, il y a tout ce qui est garrot. Donc, si on a un tourniquet, on met un tourniquet, mais sinon, j'ai envie de dire, on met un garrot non élastique pour pouvoir faire le garrot si l'hémorragie est trop importante ou que la compression est impossible. Donc, concrètement, on a tout ce qui est plaies simples, tout ce qui est pour les plaies graves. Est-ce que vous suivez, Yael ?
Ah oui, absolument. J'écoute, je prends des notes.
Ah, super. Après, dans le troisième compartiment de votre trousse, il va y avoir tout ce qui est objets et accessoires de premier secours. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre des ciseaux médicaux. En fait, c'est des ciseaux, mais à bourron, pour découper les bandes, les pansements, mais aussi pour pouvoir découper des vêtements qui sont coincés ou pour accéder à une plaie. Par exemple, s'il y a une brûlure, dans le cadre des brûlures graves, on ne touche pas aux vêtements qui sont collés, mais par contre, il faut découper tout autour de la brûlure. Donc vraiment, les ciseaux médicaux, c'est important. On va mettre une pince à épiler pour retirer des corps étrangers, mais superficiels, hein, pas le couteau ou l'éclat hein, d'obus. C'est vraiment pour enlever tout ce qui est superficiel. On va mettre que beaucoup connaissent maintenant avec cette histoire de Covid, à savoir les masques et les gants.
Ah oui.
Donc les masques, en fait, c'est pour se protéger et protéger le blessé, mais c'est aussi pour s'il y a de la poussière, comme ça on filtre l'air qui est dans la pièce. Donc évidemment, vous vérifiez que vous êtes en sécurité. Maintenant, s'il y a un peu de poussière, parce qu'il y a cet environnement-là, on va dire ça proprement, eh ben, vous avez votre masque, vous pouvez très bien gérer la plaie de votre blessé et en même temps, vous le protégez avec votre masque. Donc vraiment, importance du masque, des gants pour la protection et l'hygiène aussi du sauveteur et du blessé. Et deux autres choses pour la partie accessoire, on met une écharpe. Alors dans le commerce, ça se vend, je crois, les écharpes. Vous savez, c'est pour immobiliser un membre.
Oui, d'accord, ok. Je ne voyais pas, d'accord.
Voilà.
Je vois après, de quoi vous parlez. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement une espèce de longue bande.
Voilà, okay. Exactement.
Okay, okay.
Donc, pas de stress. Hein. Si on n'en trouve pas, vous prenez une écharpe de la maison, ça convient très bien. Hein. Et même pour le garrot, on en avait parlé, on peut s'en servir comme garrot à partir du moment où ça fait 1,50 m de long. Donc, vraiment, une écharpe mais sauf que là, en plus, c'est pour immobiliser un membre. Et enfin, dans les accessoires, on va mettre une couverture de survie, ce qui est très important avec la couverture de survie. Alors, ça s'appelle une couverture de survie en aluminium réfléchissant. C'est un peu pompeux, mais en fait, c'est pour, un, se protéger du froid. Et dans ce cas-là, la partie jaune, vous voyez ce que c'est une couverture de survie? C'est
oui, très mais alors, fin. J'aurais jamais pensé qu'il fallait amener ça dans une... Je ne sais même pas comment voilà, ça rentre dans une...
C'est bien pratique, parce que la partie jaune à l'extérieur, ça permet de nous protéger du froid. Si on met la partie argentée, ça nous permet de nous protéger du chaud. Et puis, mine de rien, ça sert d'abri. S'il y a du vent ou s'il y a des intempéries ou quoi que ce soit, ça nous protège. Ça peut servir de matelas aussi, isolant pour éviter le contact direct avec le sol. Et puis, dans des cas extrêmes, ça peut servir aussi de signal d'alerte de par la couleur du jaune qui réfléchit. Donc vraiment, ça a une grande utilité, cette couverture de survie. Donc si on reprend les accessoires de premier secours, dans ce compartiment-là, on a les ciseaux, la pince à épiler, les masques, les gants, l'écharpe et la couverture de survie.
Sans compter tous les pansements qu'on a énumérés en début de...
Évidemment,